Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous. Le monde entier célèbre le mercredi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes, une célébration des droits des femmes sur le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». En Côte d'Ivoire, le gouvernement a choisi de célébrer les droits des femmes autour du thème « L'innovation technologique et digitale, levier de l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Pour débattre de ce thème, je suis en compagnie de Madame Sila Awa, elle est conseillère technique de la ministre de la Femme, la Famille et Enfants, experte en genre. Je suis également en compagnie de Madame Begou Flore, présidente de l'ONG Citoyenne Engagée pour le Leadership et la Démocratie. Je suis également en compagnie de Madame Rita Pascal Kouamina, présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de Monsieur Ghislain Koulibaly, il est sociologue, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. Avec nos invités, nous allons débattre donc de ce thème, l'innovation technologique et digitale, levier de l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je le disais, nous sommes à l'espace démocratie en progrès, un espace qui est dédié au débat démocratique sur Radio de la Paix. C'est une initiative de l'ambassade des États-Unis réalisée par Radio de la Paix. À ce micro, Ben Diakité, technique Anton Kouassi.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Comme je le disais tantôt en introduction, notre débat de ce matin va porter donc sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, précisément sur le thème « L'innovation technologique et digitale, levier de l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Ma première question va s'adresser à vous, Madame Sila Awa. Vous avez fait le lancement de la Journée internationale de la femme le 18 février dernier via les canaux digitaux. Pourquoi vous avez choisi ces canaux-là pour faire le lancement de la célébration de la Journée internationale de la femme ?
Je vous remercie pour votre question et le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant remercie Radio de la Paix de nous donner cette opportunité de parler de cette journée importante du ministère pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Alors, vous le savez, le thème de cette édition de 2023 porte sur les innovations, la technologie et le digital. Alors, l'idée est venue de la ministre elle-même. Elle a dit... Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus? Pourquoi ne pas être crédible et aller sur le numérique? Au lieu d'aller en physique, en présentiel, eh bien, cap sur le numérique. C'est ainsi que nous nous sommes exécutés. Et cela nous a valu beaucoup de succès. Nous avions des milliers de femmes qui nous ont suivies en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, et beaucoup de commentaires qui nous ont vraiment fait chaud au cœur.
Je vais m'adresser maintenant à Madame Begou Flore. Comme je le disais tantôt, la journée, le thème aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies et les questions des droits des femmes. La première question, la question qui me vient directement dans l'esprit, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, indépendamment des questions de digital, quelle est la situation des femmes en termes de droits?
Merci beaucoup, Monsieur Diakité. Merci également à la Radio de la Paix de nous donner cette tribune pour pouvoir nous exprimer en tant que société civile. Aujourd'hui, en matière de droits des femmes, il faut dire que nous avons une bonne avancée. Au niveau, par exemple, textuel, nous avons suffisamment de tests pour garantir les droits de la femme. Mais le défi aujourd'hui, c'est au niveau de l'application, au niveau de l'appropriation par les populations. C'est là notre défi et notre combat continue sur cette lancée.
Madame la Présidente Rita Pascal Kouamina, vous êtes la Présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, donc vous travaillez beaucoup sur les nouvelles technologies de l'information, vous êtes une femme et votre métier, votre travail, le digital, est mis en avant. Quels sont d'abord vos sentiments sur le fait qu'on célèbre la Journée de la Femme, bien entendu en mettant un accent particulier sur l'utilisation du digital?
Merci Monsieur Ben Diakité, merci à la Radio de la Paix pour l'invitation. Déjà, c'est une grande joie pour nous qui sommes acteurs du digital et particulièrement pour la gente féminine. Parce que contrairement aux autres secteurs d'activité, il faut dire qu'en matière du digital, les femmes se distinguent et elles s'imposent. Et mettre le digital au cœur de la célébration du 8 mars, c'est vraiment salutaire. Dans la mesure où le digital est un instrument que les femmes doivent s'approprier, l'utiliser pour pouvoir non seulement faire la promotion de leurs droits, mais outre la promotion de leurs droits, c'est un véritable canal pour l'autonomisation de la femme. Et quand je parle d'autonomisation, c'est pas seulement l'autonomisation financière. Outre les métiers qui en découlent et la possibilité de se créer un réseau pour pouvoir vendre ses compétences, il y a aussi cette possibilité-là de s'instruire via le digital. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller forcément dans une école. Grâce au digital, on peut avoir des certificats, les femmes peuvent se former. Et pourquoi ne pas mettre en avant le digital dans le combat des femmes? Et c'est vraiment à saluer cette initiative.
Merci beaucoup, Madame Rita Pascal Kouaminan, pour cette précision. Je vais parler maintenant avec notre sociologue maison. Il s'agit donc de Ghislain Koulibaly qui nous accompagne donc dans le cadre de cette émission, de cette célébration de la journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Monsieur Ghislain Koulibaly, pourquoi et qu'est-ce que représente le digital en termes de communication dans la vie sociale? Quelle importance cet outil revêt pour qu'on mette ça en avant dans le cadre donc, de la célébration de la Journée internationale de la femme?
Merci, merci pour cette question. Je voudrais d'entrée de jeu dire que le monde est à l'ère des technologies et de l'information et de la communication et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette avancée. Juste pour vous donner une idée du positionnement de la Côte d'Ivoire en matière de TIC hein, par rapport au monde, si je me réfère au rapport sur le caractère abordable des ressources de Alliance for Affordable Internet 2017, au niveau de la maturité numérique, la Côte d'Ivoire est classée 131e sur 176 pays au plan mondial. Et quand vous regardez au niveau du continent africain, nous sommes 9e sur 46 pays et 2e derrière le Ghana en Afrique de l'Ouest. Alors, pour dire que nous étions à l'ère mécanique, et il y a eu des évolutions parce que vous savez que la société n'est pas statique. Bien au contraire, elle est dynamique et évolue dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, à l'ère des réseaux sociaux et vous avez constaté que les comportements se modifient au fur et à mesure et cela commence même déjà à la base dans les cellules familiales. Aujourd'hui, quand vous regardez la cellule familiale, les parents, n'est-ce pas, aujourd'hui ont des smartphones. Et les enfants qui sont dans cette cellule familiale procèdent par imitation. Sociologie de l'imitation, Gabriel Détard, on regarde les parents faire et on reproduit. Donc, premier élément d'appropriation du digital, c'est dans les cellules familiales. Lorsqu'on sort de la cellule familiale et que nous sommes dans les groupes de pairs tels que l'école, de plus en plus à l'école, il n'est pas rare de voir que les exposés se font via le digital, faites des recherches sur Google, vous avez des salles multimédia dans les établissements et cela dénote de ce qu'on veut mettre à jour le système éducatif et réduire la fracture numérique parce que nous sommes dans un pays globalisant et donc nous sommes tous en compétition. Aujourd'hui, le numérique devient une alternative qui s'impose et qui devient objet de compétitivité. Je prends par exemple, au-delà du système éducatif, quand vous regardez le secteur privé, mais aujourd'hui, l'accès à certains marchés, c'est par le digital. Si on parle de la femme, les femmes sont beaucoup plus dynamiques dans le secteur informel, plus de 95%, mais aujourd'hui, elles sont appelées à améliorer leurs pratiques en termes d'accès à des marchés pertinents, mais cela passe par le digital. Quand vous prenez les IFEF aujourd'hui sont digitalisés. Voyez-vous, ça veut dire que le gouvernement...
Les
instituts de formation féminine sont digitalisés. On parle d'alphabétisation, n'est-ce pas? Mais l'alpha se fait aujourd'hui avec le numérique, l'ordinateur. Donc pour moi, ça fait partie de nos habitudes. On s'est tous appropriés, mais les jeunes sont un segment porteur parce qu'ils sont beaucoup touchés.
Alors, Madame Silla, avec vous, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement et votre département ministériel a choisi ce thème-là, innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Que devons-nous comprendre par ce thème?
Mes prédécesseurs ont déjà abordé la question de la pertinence de ce sujet au regard de l'importance du numérique c'est un sujet d'actualité. On ne peut plus ignorer l'importance du numérique et des technologies. Choisir ce thème, c'est d'abord une volonté de sensibiliser la population féminine, comme l'a dit tout à l'heure Madame Rita, présidente des blogueuses, de sensibiliser les filles à l'importance du numérique et aussi à l'importance de l'utilisation active et enrichissante du numérique. Parce que c'est vrai, les femmes et les filles sont souvent sur le net, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'elles utilisent de manière optimale ces outils-là? Est-ce que ce n'est pas une utilisation passive qu'elles en font? Il y a tellement d'opportunités à saisir qu'il faut vraiment se poser les questions et mettre ce sujet à l'ordre du jour. Et sans compter qu'au plan de l'éducation, les filles restent sous-représentées dans tout ce qui est STEM, les sciences, technologies, on peut ajouter le numérique maintenant. Moins de 28% des étudiants dans ces questions de technologie sont des filles, seulement 28%. Le reste, ce sont les garçons. Alors qu'on sait l'importance de cette formation dans l'employabilité des jeunes. Donc, c'est un sujet que nous ne pouvions pas rester sourds à l'avancement du monde.
D'accord. Madame Begou Flo, présidente de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie, vous qui êtes sur le terrain, quelle est la réalité en termes d'utilisation, d'accès à Internet, au réseau digital par rapport aux femmes, parce qu'on a entendu tout à l'heure Ghislaine Koulibaly dire que 90% des animateurs, des acteurs du secteur informel sont les femmes. Est-ce qu'elles possèdent véritablement cet outil-là?
Merci beaucoup, Monsieur Ben. Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le digital, le numérique est une opportunité. Mais sur le terrain, la réalité, par exemple, c'est qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus actives dans la communauté. Elles aimeraient également porter leur voix, amplifier leur voix via le numérique. Mais elles sont confrontées à pas mal de difficultés. Il y a la question de l'accès au réseau Internet dans les communautés, dans les villages, qui n'est pas une évidence. Il y a également la question même de l'accès aux outils. Aujourd'hui, s'acheter un téléphone pour une femme en zone rurale, même en zone urbaine, c'est un peu plus difficile. Et également, il y a la question même de l'appropriation de l'outil numérique par les femmes. Donc, la question de l'éducation à l'outil numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que l'espace Internet, l'espace numérique est ouvert. Mais comment l'utiliser? Comment y accéder? Comment lire les messages? Comment poster un message? Nos femmes qui sont dans les communautés ont besoin de cette éducation. Parce que le taux d'analphabétisme dans le milieu des femmes est assez élevé. Ajouter à cela l'analphabétisme numérique, c'est encore un grand champ à pouvoir défricher au niveau des communautés. Donc les femmes connaissent, saisissent l'opportunité du digital, mais elles ont encore des défis. Elles ont des besoins qu'il faille combler pour qu'on puisse parvenir à l'inclusion, on puisse parvenir, n'est-ce pas, à l'autonomisation économique et sociale des femmes.
Madame Rita Pascal Kouaminan, vous avez entendu avec moi Madame Flore Begou parler des difficultés qu'ont les femmes d'avoir accès, que ce soit en ville ou dans le milieu rural, à l'Internet, au portable. Vous, en tant que présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites pour faciliter ces questions-là?
Merci, Monsieur Ben. Déjà, il faut savoir que le véritable problème en Côte d'Ivoire en termes d'opportunités, c'est que toutes les opportunités sont centrées à Abidjan. Et ça, c'est un véritable problème pour la formation, l'éducation, les opportunités de manière générale. En ce qui concerne les questions de digital et du numérique, il faut dire que les questions d'accès à Internet aussi freinent l'appropriation de l'outil numérique, en fait, du digital. Et nous, au niveau de l'association des blogueurs, il faut savoir que nous sommes une association citoyenne très engagée. Et au cœur même de nos actions, nous mettons la formation et surtout la formation des jeunes. Madame la conseillère technique, dans son intervention, a signalé le fait que est-ce que les femmes sont des actrices ou des utilisatrices passives de l'outil digital? Et nous, lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'association des blogueurs, nous avons initié une série de formations. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a cette grande soif-là d'utiliser le digital comme ce que la présidente Bégou a dit. Mais comment l'utiliser? Et comment l'utiliser surtout de manière saine? Et nous avons initié une formation qui s'appelle la Bloc Academy. Elle n'était pas seulement ouverte aux femmes, mais en tant que présidente et surtout en tant qu'activiste des droits de la femme, nous nous sommes battus pour qu'il y ait 50% de femmes bénéficiaires de ce programme-là. Et nous avons lancé l'appel à candidature sur les réseaux sociaux. Au départ, on a voulu faire la formation en présentiel. Nous avons estimé que si on le faisait en présentiel, ce serait encore limiter cette opportunité-là que nous dénonçons. Donc nous avons fait ces formations-là en ligne. Pour l'appel à candidature, nous avons eu plus de 500 candidatures, dont environ 200 jeunes filles qui ont postulé pour se former. Et il faut savoir qu'on fonctionne sur fonds propres, on n'a pas eu d'appui. Et nous avons pu sélectionner seulement qu'une quinzaine de jeunes, donc à savoir 8 filles et le reste des garçons qu'on a formés. La première cohorte est sortie, donc ils ont été formés à la bonne utilisation des réseaux sociaux, à la création de contenu et au blogging. Et ils ont fini leur formation et nous comptons encore renouveler encore cette formation-là cette année. Et nous ne comptons pas nous arrêter là en fait. Nous avons également initié ce qu'on appelle la tournée des écoles qui vise à aller dans les écoles pour inciter nos jeunes frères à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Je tiens à rassurer tout le monde, on ne va pas se contenter de rester seulement à Abidjan. Il y a des villes de l'intérieur qui sont prévues à cet effet-là. Aller à la rencontre de ces jeunes femmes-là, de ces jeunes hommes-là, pour les inciter à utiliser l'outil Internet. Déjà, je tiens à préciser qu'en matière de TIC en Côte d'Ivoire, les femmes sont bien représentées, comme je le disais. Et déjà, il faut savoir que nous, à l'Association des blogueurs, je le dis avec une certaine fierté, il y a plus de filles blogueuses que d'hommes, en fait. Et pour la petite histoire, l'association existe depuis bientôt 10 ans. Il y a eu 5 présidents, dont 3 femmes qui ont été présidentes. Et donc, c'est pour dire que la promotion du genre, la promotion du leadership féminin, au cœur même des actions de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, Madame Rita Pascal-Kouamina. Je vais m'adresser maintenant à vous, Monsieur Ghislain Koulibaly. C'est vrai qu'on présente l'Internet comme un instrument qui va permettre de faire la promotion des droits de l'homme en ensemble, et particulièrement les droits des femmes. Mais il y a aussi le revers. On a vu que Madame Sylla expliquait tout à l'heure qu'en termes d'éducation, de façon générale, les hommes sont plus avancés que les femmes. À plus forte raison encore, cet outil nouveau, encore là, il y a plus de présence des hommes que des femmes. Et toutes les difficultés qu'ont les femmes au quotidien font que cela reste quand même des grands défis à pouvoir relever. Est-ce que finalement, réellement, est-ce que ce n'est pas un mirage que de croire que les femmes pourront, vu les difficultés qu'elles vivent au quotidien, comment elles pourront maîtriser cet outil?
Oui, moi je pense que c'est une question tellement intéressante qu'il est intéressant de présenter le tableau du contexte social ou sociologique assez rapidement. Quand vous prenez le dernier RGPH, c'est-à-dire le recensement général de l'habitat et de la population, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons quand même 47,8% de femmes. Or, au RGPH 2016, on était pratiquement à moitié-moitié, mais qu'on soit à 47 ou à 48%, j'estime que démographiquement, on a autant d'hommes que de femmes en Côte d'Ivoire. Donc, les femmes ont un poids démographique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est d'ordre économique. Quand vous regardez le taux de pauvreté, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu plusieurs ruptures sociales, les conflits qu'on a connus, mais aujourd'hui, avec la relance économique, on est quand même à 35%. Donc, taux moyen de pauvreté en Côte d'Ivoire. D'accord, mais le problème c'est que quand on vous donne les taux moyens, ces taux moyens cachent des inégalités. C'est ce que je voulais faire ressortir. Okay. Et quand vous regardez finement les réalités au nord, au nord-est et autres, vous avez des taux de pauvreté qui font des pics entre 80 et 90%. Je vous donne par exemple les cas de Foumbolo. Donc plus vous avancez, vous avez des cas de pauvreté et en milieu rural, malheureusement, le taux de pauvreté est accentué. On a l'habitude de dire qu'on parle de féminisation de la pauvreté, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que quand vous regardez dans les cellules familiales, vous avez les mandats de gens qui montrent bien qu'il y a un déséquilibre. La tâche ménagère ou les tâches ménagères constituent des obstacles à l'autonomisation. Ça, c'est un élément important. Et Madame la conseillère technique l'a rappelé à souhait. On veut éduquer, c'est vrai. Mais lorsque l'orientation même est impactée par les mandats de genre, parce que il faut orienter les femmes dans ces filières STEAM. Mm-hmm. Mais lorsqu'on se dit qu'elles seront plus méritantes ou qu'elles seront plus qualifiées dans des filières littéraires, tertiaires, etc., au détriment ou au profit des hommes, je vais dire que le problème, c'est à ce niveau. Mm-hmm. Les filières STEM, en 2017, on était à 10% de présence féminine dans les filières STEAM. C'est ce qui est grave.
Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un peu plus difficile ? Je me pose la question.
Alors, je vous donne la réplique.
Je ne crois pas que ce soit parce que c'est plus difficile. C'est vrai que ce n'est pas les études les plus faciles, mais tout ça, ça relève des stéréotypes encore.
Exactement. Okay.
C'est-à-dire, n'y va pas, c'est trop difficile, ce n'est pas pour les filles. On a cloisonné les choses et comment on a valorisé certains secteurs. Et tout ça, c'est les perceptions de genre.
Mais je vous donne un exemple. Vous prenez aujourd'hui le BEPC, le bac, les femmes damnent le pion aux hommes. Ouais. Ça veut dire que quand vous regardez les filières mathématiques, physique et autres, les personnes qui excellent, ce sont les femmes quand on leur donne la chance d'y participer. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté autre parce que nous sommes dotés de la même intelligence. À ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Mais le défi, comme elle le disait, c'est dans la conception, c'est dans l'usage des TIC, c'est dans l'appropriation et c'est dans la maîtrise des TIC ou du digital comme outil stratégique. Ce sont des défis parce que les différences hommes et femmes vont encore aller impacter tout ce processus. Mais il ne faudrait pas se décourager. Ne soyons pas pessimistes parce que pour moi, le levier numérique est une grosse opportunité parce qu'il n'est pas encore frappé de stéréotypes. Quand vous prenez les BTP en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, le BTP, on a une sous-représentation des femmes dans les filières BTP. Et donc aujourd'hui, le digital vient comme une grosse opportunité, une niche pour aller vers une employabilité véritable. Parce que lorsqu'on regarde en termes d'accès, il n'y a pas de souci. Mais en termes de maintien même de nos jeunes filles à l'école, il y a problème. En termes d'achèvement, il y a problème. Et elle l'a dit, en termes d'insertion, donc d'employabilité, il y a des problèmes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que comme il y a une prise de conscience généralisée et il y a une volonté politique, la preuve, aujourd'hui, on utilise le numérique comme levier d'autonomisation économique et sociale, ça veut dire que avec la prise de conscience, on va investir tous ces secteurs et positionner les femmes.
Je peux rebondir pour dire que une des raisons pour lesquelles aussi le thème a été choisi, ça montre la volonté politique de l'insertion des femmes et des filles dans tous les secteurs. Voilà, donc c'est l'intégration du genre dans tous les domaines clés, les infrastructures, les équipements, les eaux et forêts, pas seulement les secteurs classiques, mais tous les secteurs pour montrer que la problématique est valable pour tous les domaines et qu'il n'y a pas de domaine réservé. Au contraire, la Côte d'Ivoire a pleine croissance grâce à des secteurs clés tels que l'énergie et les autres, les mines et tout cela. Donc la femme et le numérique et tous ces secteurs innovants, tous ces métiers innovants à forte teneur de valeur ajoutée, c'est aussi pour les hommes et pour les femmes.
Madame Silla, est-ce que de façon concrète, le ministère fait quoi en termes de positionnement des droits des femmes sur le digital, par exemple ? Vous faites quoi ? Vous faites des masterclass, vous formez des femmes. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que cet outil-là soit saisi, soit la propriété des femmes ?
Alors, déjà, ce que nous faisons et qui est tout à fait valable aussi, c'est toute cette prise de conscience que nous sommes en train de vouloir susciter. Parce que c'est un secteur, ce n'est pas le ministère de la Femme qui va faire la promotion du numérique seul. C'est avec toutes les autres entités sectorielles que nous travaillons. Le ministère de l'économie numérique, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'éducation nationale qui m'a donné les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il soit salué au passage, Dr Brou-Georgette, et tous les autres secteurs. Donc il y a cette prise de conscience, il y a ce plaidoyer que fait la ministre. Et aussi, nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers. ONU-FAM, c'est des partenaires clés, le PNUD. Et tous ceux-là sont ensemble en train de nous aider à ce que les paradigmes changent et que les femmes soient acceptées dans tous les secteurs et qu'elles-mêmes voient que leur place est aussi dans tous les domaines. Alors, à cela, je voudrais concrètement parler de notre politique dans les IFEF. Il y a une réforme des IFEF en ce moment, en cours, Et il y a la place du digital, il y a des maisons digitales dans les IFEV. Voilà, donc c'est ce que nous faisons, lentement mais sûrement, dans nos IFEV, surtout dans notre volonté de changer les mentalités et d'amener tous les acteurs clés, les sociologues comme Ghislaine, les blogueuses comme la présidente Rita, les spécialistes des droits des femmes, les médias comme Radio de la Paix.
Merci beaucoup, Madame Silla du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous pour nous décliner vos actions que vous faites sur le terrain en termes de promotion des droits des femmes. Alors, Madame Begou, sur cette problématique-là, c'est vrai qu'on a dit que il y a des défis à relever. Parfois, on voit ces femmes dynamiques dans le monde du vivrier. Il y a une qui nous racontait son histoire. Elle était chaque fois obligée, pour pouvoir joindre ses partenaires à Abidjan, de faire passer son argent par quelqu'un qui savait lire. Malheureusement, la personne n'était pas toujours correcte dans la transmission des montants qui étaient, parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Et en plus, elle devrait envoyer cet argent par digital. Parfois, il y a des besoins pratiques. Comment on peut prendre en compte ces besoins spécifiques de ces femmes-là pour qu'il y ait une intégration du digital, comme le digital devient comme un compagnon de tous les jours? Comment on peut faire ça?
Merci beaucoup, Monsieur Ben. Et à ce sujet, je voulais expliquer une anecdote. Il faut dire que l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie Côte d'Ivoire est née en période de Covid. Et notre premier projet que nous avons eu, c'était en ligne et nous l'avons exécuté en ligne. Alors, il s'agissait de quoi? Nous avons observé, c'était en période électorale également, la période était trouble. Et avec la Covid, chaque femme, les femmes étaient cloîtrées chez elles, sans information. Et donc, ce projet-là a permis de créer un cadre d'échange avec les femmes. Et nous avons parlé au cours de ce panel-là qui s'est fait sur Zoom d'autonomisation des femmes. Il faut dire que les femmes débordent d'une telle énergie, d'une telle réflexion. C'est-à-dire qu'elles ont des solutions pour les aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut aider les femmes, il faut aller vers elles. Elles ont des solutions idoines, adéquates. Donc, au cours de ce panel que nous avons organisé, les femmes ont souhaité, par exemple, qu'il y ait des ports secs pour écouler leurs marchandises. Parce qu'en ce moment, pendant la Covid, il n'y avait pas de circulation. Et les produits pourrissaient dans les champs. Elles n'arrivaient pas à évacuer. C'est ainsi qu'elles ont vu l'importance de communiquer, de vendre via le digital. Donc, avec le digital aujourd'hui, les femmes peuvent écouler facilement leurs marchandises. C'est-à-dire, depuis le champ, depuis la plantation, elles peuvent déjà en ligne trouver des acheteurs, des personnes pour pouvoir écouler ces marchandises. Donc, en termes de solutions pour que les problèmes spécifiques de ces femmes soient pris en compte, c'est, n'est-ce pas, de toujours aller vers elles, leur donner la parole pour qu'elles puissent s'exprimer. Et aujourd'hui, en tant que société civile, en tant que personne étant toujours aux côtés de ces femmes, ce qu'elles souhaitent le plus, c'est surtout la connectivité et puis la réduction des appareils. Parce que je vous donne un exemple. À Dioukoué, par exemple, là-bas, les femmes sont beaucoup plus investies dans le vivrier. Et quand il n'y a pas de connexion, c'est difficile pour elles de pouvoir communiquer. Et également, ces femmes-là n'ont pas la possibilité de communiquer comme il se doit. Aujourd'hui, communiquer sur Internet, c'est tout un art. C'est tout un ensemble. Elles n'ont pas ces possibilités. Comment créer un visuel? Comment lancer un message attractif? Comment même à la vue d'un message sur Internet, comment l'analyser? Elles n'ont pas tous ces outils. Donc, c'est un peu difficile. Souvent, d'autres même ont les outils, mais n'arrivent pas à les exploiter. Certaines n'en ont pas. Donc, c'est vraiment à l'État de mener une politique globale. J'ai entendu tout à l'heure la politique, la réforme des IFEF. Il faudrait que cette réforme-là s'étende à toutes les communautés, à toutes les femmes. Aujourd'hui, je serais par exemple heureuse qu'à Dioukoué, à Logualé, à tout le Pleu, il y ait une maison digitale pour les femmes, équipée, connectée. De sorte que la femme qui a un besoin en termes de connectivité peut rapidement se retrouver dans cette maison et puis communiquer avec l'extérieur. Je parlais ce matin avec une dame qui me disait que Internet, moi, ça me sauve parce que ça me permet de briser les barrières. Aujourd'hui, je sais qu'avec Internet, je brise mes limites, j'arrive à communiquer avec les autres. Donc, c'est-à-dire que le fait
qu'elle n'ait pas cette possibilité de communiquer de façon adéquate est une angoisse pour ces femmes. Notre plaidoyer, c'est à l'endroit de Madame la ministre et à l'endroit de l'État, c'est de mettre en place des maisons digitales dans toutes les localités, dans tous les départements,
du pays,
pour que les femmes puissent véritablement bénéficier de cet outil qui leur permettra, n'est-ce pas, leur autonomisation économique et sociale. Parce qu'une femme qui a la possibilité de s'exprimer sur Internet peut aisément parler de sa communauté, parler des besoins de sa communauté, pas seulement des besoins des femmes, mais des besoins qui minent sa communauté. Elle peut être une porte de plaidoyer également pour les besoins de sa communauté. Donc c'est vraiment important d'aider ces femmes à pouvoir utiliser, à pouvoir avoir accès à Internet partout où qu'elles soient.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. Vous êtes à l'espace Démocratie en Progrès. Dans l'espace Démocratie en Progrès aujourd'hui, nous débattons de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme sur le thème « Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Et si nous sommes en compagnie de Madame Sylla Awa, la conseillère technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes également en compagnie de Madame Begou Flor. Elle est la présidente de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie Côte d'Ivoire. Nous sommes également en compagnie de Madame Rita Pascal Kouamina, elle est la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Alors, Madame Rita Kouamina, on a vu, c'est vrai que Internet multiplie les opportunités, Internet nous permet de communiquer, nous permet de vendre, Internet nous permet de défendre nos droits. Malheureusement, les digitaux, les instruments technologiques là aussi, peuvent être des espaces ou des instruments de violation des droits des femmes. Et ça, de plus en plus, on voit beaucoup de jeunes gens qui se suicident, beaucoup de jeunes gens qui sont agressés, qui abandonnent l'école, du fait de cette violence exercée par ces instruments de mesure. Alors, votre regard sur cette situation?
Déjà, il faut savoir que les violences en ligne existent et elles sont présentes aussi dans notre pays. C'est pourquoi assainir le milieu du digital, du web ivoirien s'impose. Et vous voyez que récemment, il y a la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle qui a été prise, qui vise justement à assainir ces personnes-là qui sont les acteurs principaux du digital, à savoir les blogueurs, les influenceurs et les activistes. Et donc cette loi-là vient recadrer un peu le contexte de l'utilisation à ce qui concerne ces acteurs-là, parce que ce sont les premiers qui impulsent le changement, qui influencent, comme on le dit, la communauté. Donc ce milieu-là doit être régulé, assaini, non seulement du côté de ceux qui sont acteurs, mais également de ceux aussi qui utilisent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de lois qui existent parce que beaucoup de gens ne le savent pas, parce que nous sommes justement dans un problème d'appropriation et aussi de vulgarisation. Des lois existent, mais malheureusement, ces lois-là ne sont pas vulgarisées, elles ne sont pas portées à la connaissance du grand public. Et ces lois-là ont pour but justement d'éviter qu'il y ait violation des droits de la femme. On ne peut pas dénier ce fait-là qu'il y ait beaucoup d'abus, notamment ce qui concerne l'harcèlement en ligne. Il y a également ces femmes-là qui sont exposées aussi via les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle aussi de l'utilisation saine, d'où l'interpellation des femmes. Il faudrait qu'on fasse aussi attention à comment on utilise les réseaux sociaux, à ce qu'on met sur Internet. C'est vrai que c'est une véritable opportunité qui nous est donnée à nous les femmes, le digital, mais il faudrait qu'on fasse attention à l'utilisation qu'on fait sur les réseaux sociaux, aux informations qu'on poste sur les réseaux sociaux, au type de photos qu'on met, aux commentaires, aux publications et tout. C'est très important qu'on le fasse. Et ce que je veux dire aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent, et ça c'est vraiment, je dirais, un plaidoyer que je fais et également une sensibilisation que je fais à l'endroit de toute la population. Le digital, le web n'est pas un no man's land. Il existe un règlement, il y a un cadre juridique qui existe, qui encadre l'utilisation du web. Donc, à tous les contrevenants, il faut savoir qu'ils peuvent tomber sous le coup de la loi.
Alors, M. Ghislain Koulibaly, sur cette problématique, sur cette question, ce gros défi de la bonne utilisation de l'Internet, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut gérer les choses pour que Internet puisse servir des objectifs, entre guillemets, nobles?
Oui, moi, je partage déjà son avis, hein. L'analyse qu'elle vient de faire. Et quand vous regardez ce que la Côte d'Ivoire a connu comme conflit, comme difficulté, on peut aisément dire qu'on a basculé dans une culture de violence. Quand vous regardez en milieu scolaire les enfants qui s'auto-décrètent en congé et créent de la violence qui débouche sur des pertes en vies humaines, c'est un indicateur. Et pour moi, quand vous regardez les cellules familiales qui ont commencé à exploser du fait de la pression économique et autres, ce sont des éléments qu'il faut regarder de près. Et un indicateur qui montre que nous sommes dans un cas de violence, je parle sous le contrôle du ministère de la Femme, en 2010, nous avions enregistré 711 cas de VBG en Côte d'Ivoire. En 2019, nous étions à 3193 cas. En 2020, on était à 5145 cas. En 2021, on était à 6040 cas de VBG. Cela ne veut pas dire que ça augmente. Non, les partenaires font beaucoup de sensibilisation. Il y a une culture de dénonciation qui naît. Mais pour dire que je suis d'accord, Internet est un exutoire. Lorsqu'on arrive à des situations de bâillonnement et que les populations n'arrivent pas à s'exprimer, automatiquement, les réseaux sociaux deviennent l'exutoire. Donc, tout se dit et n'importe quoi se dit sans contrôle. Aujourd'hui, le défi, c'est comment éduquer les populations à l'utilisation, non seulement à l'usage, à l'appropriation, mais à une utilisation saine des outils qu'offrent les TIC. Donc ça, c'est un gros défi. Et n'oublions pas que nous sommes dans des sociétés patriarcales où la femme est une cadette sociale dans les relations sociales. Et quand on se retrouve sur Internet, on ne fait que reproduire ces mandats de genre. Vous voyez ? Et donc, la violence verbale, la violence en ligne et autres, en réalité, fait partie de la typologie des VBG. Parce qu'on a affaire à des violences psychologiques et émotionnelles qui touchent l'estime de soi, la confiance en soi de la femme, et ça peut justement réduire sa voix. Or, bien au contraire, ce que nous souhaitons, c'est que le numérique devienne un amplificateur de la voix des femmes. Parce que les femmes, je vous l'ai dit, ont un poids démographique, les femmes sont un atout économique, il faut qu'elles s'expriment pour qu'on aille vers ce développement inclusif, équitable et durable.
Madame Silla, sur la même préoccupation, comment on peut travailler avec les outils Internet pour une meilleure promotion des droits des femmes et non, on va dire, pour une violence exercée sur les femmes?
Le problème est crucial et il faut l'adresser. Il faut l'adresser par la sensibilisation pour que les filles, surtout les adolescentes les plus jeunes, qui sont les plus nombreuses, sachent les dangers et les risques. Cela passe par la sensibilisation, la formation. Et c'est en cela que les actions que mène la société civile, telles que les organisations présentes sur ce plateau, sont à féliciter. Parce que les écoles aussi doivent s'y mettre. Ce combat doit intégrer le système scolaire, que ce soit dans les écoles primaires. Les enfants sont déjà sur les smartphones de leurs parents et tout ça. L'école peut aider. La maison doit aider. Parce que tout commence à la maison. Toutes ces choses-là commencent à la maison. Et s'agissant des violences à l'égard des femmes, parce que le sujet est en droite ligne avec la question des violences à l'égard des femmes. Les discriminations de genre qui sont à la base des violences à l'égard des femmes et des filles. Et bien, donc, ce sont ces mêmes schémas qui sont hors réseau qu'on retrouve en ligne. Ce qui est hors ligne, qu'on retrouve les mêmes réalités. Alors, je pourrais aussi dire comment le gouvernement adresse aussi la question des violences basées sur le genre, parce qu'il y a une stratégie nationale de lutte contre les violences. Hein. On regarde, mais on agit aussi. Et avec des plateformes multifonctionnelles, avec multi-équipes disciplinaires, les juristes, ceux qui sont dans la communication, les psychologues, la médecine. Donc, il y a presque une centaine maintenant de plateformes sur toute l'étendue du territoire. Cela est à souligner parce qu'il faut donc une approche concertée pour juguler ce mal-là, pour prévenir d'abord et juguler. Et l'implication aussi des systèmes de défense et de sécurité du pays aussi est à saluer. Parce que maintenant, dans les commissariats et les postes de police, il y a des desks, des bureaux qui prennent en compte aussi toutes ces questions. Donc, c'est que le gouvernement prend à bras le corps ces problèmes très, très importants.
Madame Rita Pascal Kouaminan, sur la question des influenceurs, ces acteurs des multimédias qui sont apparus, qui, comme le nom indique, influenceurs, qui ont gros impact sur les populations, Comment on arrive à utiliser ces personnes à fort impact comme des catalyseurs, comme l'avait dit Ghislain Koulibaly, pour la défense des droits des femmes et non comme des personnes qui, malheureusement, soient souvent des personnes qui soufflent sur la braise pour pouvoir accentuer des crises ou des conflits. Donc, est-ce que vous, à votre niveau là-bas, vous travaillez avec ces personnes, parfois qui sont loin des opérations, mais qui envoient parfois des messages contradictoires qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale et peuvent exercer des violences sur les femmes?
D'accord. Donc, déjà, je pense qu'on va définir c'est quoi un influenceur pour qu'on puisse bien cerner la question. Donc, déjà, un influenceur, c'est une personne qui, grâce à sa présence en ligne, arrive à influencer le comportement des gens. Et donc, la notion va varier selon qu'on se met du côté des marques. Ils vont plus s'atteler à regarder peut-être le nombre de followers, la communauté que la personne a. Mais aussi, il y a ces personnes-là qui sont là qu'une petite communauté, mais qui influencent aussi les gens. Donc, on parle déjà de micro-influenceurs, donc méga et de macro. Donc, il y a différents types d'influenceurs. Et aussi, il faut savoir qu'un influenceur peut être un activiste ou pas. Et l'activiste, c'est quelqu'un qui défend une cause via son blog ou sur les réseaux sociaux. Et un blogueur, c'est quelqu'un qui tient simplement un blog. Et le blog a pour but de former, d'informer ou de défendre une cause. Donc, en me basant sur ces différentes questions, on peut dire qu'un influenceur peut être un blogueur. Mais il n'est pas forcément un blogueur, en fait. S'il n'a pas de blog, il n'est pas un blogueur. Et je reviens déjà, j'ai voulu donner cette définition-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont engagés dans la promotion du genre. Et il faut voir ces jeunes hommes, ces jeunes femmes-là qui se battent au quotidien sur le net pour faire non seulement la promotion, mais également pour dénoncer les abus dont sont victimes les femmes. Et je tiens déjà à rassurer, en ce qui concerne la question, je tiens déjà à rassurer que le travail est fait. Il est fait parce que c'est ces personnes-là, je prends le cas de lorsqu'il y a eu la mise en scène, malheureusement, sur la télé, sur une chaîne de télé, il y a eu cette mise en scène-là de viol. C'est sur les réseaux sociaux que c'est parti. C'est parti d'activistes, c'est parti d'influenceurs qui ont dénoncé. Donc, vous voyez que nous sommes engagés, nous, en tant qu'acteurs du web, à faire la promotion des droits de la femme. Comment ces personnes-là peuvent être utilisées? C'est déjà au ministère qu'on on tend la perche. Nous sommes déjà là, on fait un travail de fond sur le digital et le ministère pourrait accompagner ces différentes personnes-là. Je prends mon cas, par exemple. Je suis blogueuse activiste des droits de la femme et j'ai un média qui est dédié exclusivement à la femme qui s'appelle Réalité de femme, sur lequel je fais la promotion des droits de la femme, mais sur également lequel je mets en avant ces femmes-là qui impactent positivement la société. Et je ne me contente pas seulement de faire la promotion de ces femmes-là qui sont d'un certain standing. Je vais même à la rencontre de ces femmes qui exercent des petits métiers et tout. Donc, c'est pour dire que nous sommes déjà engagés sur ces questions-là. Et c'est le lieu pour moi de dire que nous sommes à la disposition de toutes ces institutions-là pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs.
Merci. Ghislain Koulibaly, ça, je veux comprendre, vous, en tant que sociologue, comment se fait-il que la société, généralement, pour ces problèmes, nous, on va dire, des problèmes intéressants, droits des femmes, des questions des femmes, sont des sujets qui doivent nous intéresser. Malheureusement, ce qu'on recherche très souvent sur Internet, je ne vais pas dire, mais c'est des sujets vraiment pas très intéressants. Les bérets, les affairages, des trucs vraiment, mais c'est ce qui fait plus de vues. Comment vous, en tant que sociologue, comment vous expliquez cela? Rita nous a dit que sur Internet, on peut se former, on peut vendre, on peut faire ceci. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que la voisine ou bien tel artiste a dit à tel autre, tel a dit telle insulte. Comment on explique ça? Pourquoi la société s'intéresse à des coquilles vides, si je peux m'exprimer comme ça?
D'accord, je comprends votre sentiment. Pour moi, je pense que plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Mais moi, je voudrais revenir sur les conflits successifs qu'on a connus en Côte d'Ivoire. Ces conflits-là, je pense, ont impacté tous les Ivoiriens. Et psychologiquement, ces Ivoiriens ont été impactés. Okay. C'est vrai qu'il y a eu des approches de solutions, comment sortir de la crise et autres. Mais est-ce qu'on a soigné le psychologique? Parce que récemment, on a entendu dire qu'il y a des cas de suicide. Vous voyez, ça veut dire qu'on sent un mal-être profond chez certains jeunes, chez certaines personnes, et qui n'ont peut-être pas pu dédramatiser la situation des conflits qu'on a eus, ou qui ont été choqués par des cas où du jour au lendemain, ton père est tué devant toi, tu n'arrives pas à oublier. où c'est vraiment la dégradation au niveau du statut social, à se retrouver de cocody, peut-être d'un quartier que je ne citerai pas. Donc, je pense que tout cela a impacté les Ivoiriens. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que on est dans une sorte de culture du pressé-pressé. Parce qu'il y a eu quand même, pendant les périodes de rupture, donc de conflictualité, il y a eu un mouvement qu'on a appelé le coupé-décalé, qui est venu avec, je vais dire, son comportement, son protocole. Et les jeunes, qu'est-ce qu'on leur a montré comme modèle? Qu'est-ce qu'on leur a montré comme exemple? Si on montre à nos enfants que sans souffrir, on peut réussir, sans sacrifice, on peut réussir, mais bien entendu, on crée du contenu web juste pour avoir des likes, des followers qui sont monétisés. Donc, si on regarde l'aspect monétique sans regarder l'aspect dignité qu'on défend, en ce moment, on n'est pas dans la vérité. Et vous parliez d'influenceurs. Heureusement qu'elle est revenue sur les définitions. Je pense que vous parliez peut-être de certains pseudo-influenceurs que je ne citerai même pas pour leur faire de la publicité. Lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui sont suivis par des milliers de personnes qui n'ont pas forcément l'éducation qui rime avec les valeurs que prône le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Femme et de la Famille, ça pose problème. Parce que tout se dit sur Internet, mais l'Internet est une richesse. Je vous ai dit qu'on est interconnecté. C'est un village planétaire. Mais quand on s'intéresse au béret, c'est que quelque part, on a failli et la société ivoirienne aussi, entre griffes, est un peu malade. Donc, il faut soigner la maladie en donnant les vrais exemples. Pour accéder à certains postes de responsabilité, il faut travailler.
Rita Kouamina, quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Ghislain Koulibaly?
Oui, Monsieur Ghislain l'a dit en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le digital, c'est un véritable levier économique en termes d'autonomisation. Et lorsqu'on voit l'opportunité qu'on peut se faire à travers le digital, de se faire de l'argent, tout le monde a envie de se lancer dans la création de contenu. Et c'est ce qui attire. Mais malheureusement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par tout ce qui est buzz et béret, comme on le dit couramment. Et c'est ce que les gens vont donner. Parce que plus j'ai des vues, plus je me fais de l'argent, plus j'ai une grande audience, plus je me fais de l'argent, malheureusement. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont nés avec ce type de contenu-là, qui ne vont pas forcément aider la jeunesse, qui ne vont pas contribuer à l'éducation. On essaie de dénoncer cela pour dire que ce n'est pas forcément la bonne alternative pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des buzz ou peut-être faire des insultes pour avoir une certaine notoriété. On n'a pas besoin d'avoir 20 000 likes pour impacter positivement. Avec même 20, 30 likes, on peut changer beaucoup de mentalité. Et ces personnes-là qui sont suivies par des milliers de personnes-là ne vont pas forcément impacter ces personnes-là dans le sens positif, malheureusement. Et ces personnes qui sont touchées là, parce qu'il faut faire la différence entre les likes de divertissement et les likes aussi de prise de conscience. Il y a une grande nuance entre les deux. Et donc, il faut former ces acteurs-là, toutes ces personnes-là qui veulent travailler dans le digital, qui veulent monétiser leurs comptes réseaux sociaux, il faut les former déjà à la bonne utilisation, à la création de contenus sains.
Madame Silla, sur la même préoccupation, comment rendre viable, comment rendre propre, sain l'espace cinétique, on va dire, internet, digital, pour la promotion des droits des femmes et des enfants, des jeunes filles, etc. Comment on peut travailler à cela?
Le ministère préoccupé par la question est mobilisé. Mobilisé d'abord face à la jeunesse féminine et une des réponses, c'est les activités de formation. Je dois vous dire qu'au ministère, il y a une grande structure qui est une direction de l'autonomisation économique de la femme, une direction opérationnelle pour adresser ces questions. Nous avons aussi une direction, une grande direction du genre et de l'équité. Eh bien, l'enjeu et les actions que nous menons, c'est de renforcer le leadership des jeunes filles, des jeunes femmes. C'est de les influencer. C'est d'autres formes d'influence qu'il faut agir, traiter avec nos cibles. Et il y a des actions, des politiques dans ce sens-là. Formation au leadership, mise en place de centres incubateurs. Tout à l'heure, j'avais omis ça. Nous sommes en train de créer des centres incubateurs. Nous en avons un à Tékoubé avec le partenariat avec ONU Femmes. Et ces questions sont les contenus de ces centres incubateurs. Donc, nous allons multiplier nos actions, nos approches pour que la jeunesse soit une jeunesse responsable face aux enjeux des contenus à éviter et au contraire, les contenus à construire pour s'enrichir, pour une vraie autonomisation des jeunes filles et des jeunes femmes.
Monsieur Gisèle Koulibaly, oui.
Juste pour compléter, juste un mot. Je vous assure que si vous allez sur Google actuellement, vous tapez le premier moteur de recherche qui vient en termes de vitesse, rapidité, c'est la pornographie. Ça dit que nos enfants vont sur Internet pour aller s'éduquer à la pornographie. Et ça, c'est à bannir, c'est à proscrire.
Alors, comment lutter contre ça concrètement, puisque ça existe? Rita, comment on peut lutter contre ça? Ensuite, ça va être vous, Madame Begou. Ghislaine a dit, malheureusement, les premiers clics, c'est sur les sites pornographiques.
Oui, comment il faut lutter contre ça? C'est justement faire la promotion du contenu local, en fait. Parce qu'il faut savoir que les Africains produisent au moins que 2% du contenu local. Quand vous allez sur Internet, la plupart du contenu que vous voyez, ce sont des personnes extérieures qui écrivent sur nous, ce qui est déplorable. C'est nous qui sommes au cœur de nos réalités, qui pouvons mieux exprimer nos réalités. Et j'ai parlé de la formation Bloc Académique que l'association des blogueurs a initiée. C'est pourquoi nous avons initié ce type de formation-là. C'est pour apporter des solutions à ce type de problème-là. Je l'ai dit encore tout à l'heure que le digital est une véritable source de revenus, autonomisation, création d'emplois pour les jeunes. Mais si les jeunes s'intéressent, il faille qu'on les forme à la création de bons contenus, en fait. Et le véritable problème, en fait, c'est ça. Vous voulez devenir des influenceurs, vous voulez devenir des blogueurs, mais il faudrait que vous sachiez qu'il y a certains types de contenus qui sont constructifs. Chacun de nous a sa pierre à porter à la construction du pays. Il faut qu'on ait des blogueurs, des influenceurs qui impactent positivement, je tiens à mettre l'accent dessus, positivement la société. Donc c'est vraiment une question de formation à l'endroit des jeunes.
Merci. Madame Begou, sur la même préoccupation.
Cette question pose la question de la femme, remettre la femme au centre de l'éducation. Parce qu'à la base, c'est la femme qui a pour rôle d'assurer l'éducation de l'enfant. Mais aujourd'hui, cette dame-là est en déphasage avec l'air du temps, avec le numérique. Les femmes, plusieurs d'entre les femmes qui ne sont pas éduquées au numérique, ne peuvent pas contrôler le digital, ne peuvent pas contrôler les activités de leurs enfants sur le net. Donc aujourd'hui, le thème est bienvenu. Il faut remettre la femme au cœur de l'éducation du digital. C'est en cela que nous plaidons une fois de plus pour que la formation des femmes soit de mise. Il faut rapprocher la femme du digital. Parce que ce qu'on observe sur Internet, la pornographie, les histoires de béret et autres, éloigne un peu les femmes. Quand tu parles d'Internet, quand tu parles de Facebook à une femme, « Ah non, moi, je ne peux pas, ça c'est juste pour les enfants. » Alors qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a l'éducation même de la société, de la femme qui en pâtit. Donc il faut reconsidérer la formation, reconsidérer le positionnement de la femme dans le digital.
Ghislaine Koulibaly, sur cette question, vous n'êtes pas d'accord, non?
Moi, je ne suis pas. Ça dit, on peut former, on continue de former, mais il faut réprimer maintenant. Il faut appliquer les lois. On a un dispositif légal qu'on n'applique pas. Et c'est toujours comme ça. Parce que quand je regarde, tu as plus de 25 000 abonnés, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. S'ils franchissent la ligne rouge, il faut que le gouvernement sévisse.
Ouais.
Je veux rebondir sur la question. Je suis totalement d'accord avec M. Ghislain. Je pense que la loi 2022, la nouvelle réforme, là, vient recadrer les choses, comme je l'ai dit. On a cité tout récemment à un scandale qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'était une femme encore qui était... Je ne vais pas peut-être en parler.
Pour qu'on comprenne.
Parce oui, que justement, il y a eu une influenceuse qui était en plein direct et qui a exposé ses parties intimes. Malheureusement, c'est une femme qui était au cœur de ce scandale médiatique-là. Okay. Et je pense que la ACA a fait sortir un communiqué parce qu'il faudrait qu'on comprenne. La ACA, c'est l'autorité régulateur maintenant des web activistes, des blogueurs et autres. Mais pas derrière, il y a aussi la procédure pénale qui doit suivre. Et justement, je suis d'accord, il faudrait que nos autorités jouent leur rôle de régulateur. Il faudrait que ce côté répressif-là soit mis en avant. Et là, on espère que le procureur de la République aussi va aussi se saisir de cette affaire-là qui ne vient pas faire bonne figure encore pour le web ivoirien, malheureusement. Donc, normalement, la ACA,
aussi, elle va prendre des mesures. Qui est à la base,
malheureusement. La ACA prend des mesures et ces mesures-là, justement, visent à restreindre le compte, retrait, tout. C'est tout ce que la ACA, en tant qu'autorité régulatrice, peut faire. Mais il y a l'aspect pénal aussi qui doit être aussi prise en compte et on espère que cela sera fait en fait pour éviter qu'il y ait ce genre de cas encore qui n'honore pas le web ivoirien.
Merci beaucoup, chers invités. Merci à vous qui êtes venus sur notre plateau. Nous avons donc reçu Mme Sila Awa, conseillère technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et spécialiste des questions de genre. Nous avons également reçu Mme Begou Flore, présidente de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie Côte d'Ivoire. Nous avons également reçu Mme Rita Pascal Kwamina, présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Et nous avons également reçu M. Ghislain Koulibaly, sociologue, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. Et nous avons parlé de la célébration du 8 mars, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup, mesdames. Et le thème de cette discussion était innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur Ghislain, d'avoir effectué le déplacement. C'est la fin, donc, de notre émission Débat démocratie en progrès sur la thématique de la célébration des droits des femmes. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler de d'autres thèmes en ce qui concerne, bien entendu, notre actualité. Allez, merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne fête à vous.
Ben Diakité.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.